Nous avons essayé de comprendre la vocation de Moïse. C'est un lieu très important, vous comprenez bien, au point de vue de la théologie de la vocation. C'est un lieu qui est très grand en fonction de tout le contexte, si vous voulez, et de la mission de Moïse. Moïse doit être un sauveur, un législateur qui sauve. Et le grand motif qui fait que Dieu choisit Moïse, c'est le point de vue de la miséricorde. Dieu nous montre là combien il est vulnérable à la misère des hommes. Dieu ne peut pas être indifférent à la misère. Il n'y a aucune indifférence de Dieu à l'égard de la misère. Toute misère qui se présente à Dieu, Dieu la porte. Il la porte avec amour et donc la regarde et il veut à sa manière l'enlever, la supprimer, mais en se servant de cette misère, puisque c'est le preuve de la miséricorde. Et ici, cette miséricorde de Dieu est révélée en même temps avec la grandeur de Dieu, la transcendance de Dieu. C'est curieux et c'est très compréhensible, hein. Je crois qu'on retrouve quelque chose d'analogue dans Saint Jean. Si on prend le texte tel qu'il nous est donné, ce qui est toujours plus sûr, tel que l'Église l'a gardé, on voit qu'après le geste de miséricorde de Jésus à l'égard de la femme adultère, Jésus affirme « Je suis la lumière du monde ». La miséricorde risque toujours d'être regardée comme une faiblesse. Je vous l'ai dit, cherchez ce qu'est la vertu de miséricorde chez Aristote. Nous ne parlons pas de Platon, parce que chez Platon, elle existe encore moins. Mais chez Aristote, vous cherchez ce qu'est la vertu de miséricorde, elle n'est pas une vertu. Elle est une disposition que nous trouvons dans le cœur des mères. Les mères sont miséricordieuses pour leurs enfants, il ne faut jamais l'oublier. Elles ont une pente miséricordieuse pour leurs enfants. Parce que leurs enfants, c'est quelque chose d'elles. Alors elles ont cette miséricorde normale, naturelle. Mais c'est de la fragilité, c'est de la faiblesse. Si elles étaient plus fortes, c'est pour ça qu'elle ne dit pas que le Père est miséricordieux. Ça, ce sera la révélation qui rattache la miséricorde au Père. Aristote ne rattache pas la miséricorde au Père. C'est la mère. Parce qu'il considère que c'est une affectivité très grande qui consiste à se laisser émouvoir par la misère de l'autre. Et en se laissant émouvoir par la misère de l'autre, on est entraîné, c'est plus fort que nous, à l'aider, le soutenir. Pour Aristote, c'est une fragilité, c'est une faiblesse. Dans la révélation, on nous montre que la miséricorde nous révèle ce qu'il y a de plus profond en Dieu, ce qu'il y a de plus propre en Dieu. Et saint Thomas, la suite des pères de l'Église, n'hésitera pas de le dire, que la miséricorde, c'est l'attribut par excellence de Dieu. Donc ce qui nous fait découvrir ce qu'il y a de plus intime en Dieu. Et pour que nous comprenions bien que cette miséricorde est une surabondance d'amour et qu'elle implique une très grande force, immédiatement après, il y a la révélation du « je suis ». C'est quand même très important, ça. Comme Jésus, après son geste de miséricorde, révèle « je suis la lumière du monde ». Alors le « je suis », le nom de Dieu, montre combien Dieu est libre à l'égard de tous les autres êtres. Il n'est conditionné par rien. Tandis que la miséricorde aristotélicienne est conditionnée par un état de fragilité, par une proximité affective, celle de la mère à l'égard de ses enfants. Ici, on nous montre que Dieu, étant « je suis », n'est conditionné par rien. Il n'y a pas de conditionnement au niveau de l'être. Tous les conditionnements sont au niveau du devenir. Tandis que l'être, il est. Et donc, c'est montrer le dépassement complet à l'égard de toute sorte d'adaptation. Ce serait très important pour nous aujourd'hui de montrer que la miséricorde n'est pas une adaptation. C'est autre chose. Pour pouvoir réaliser la miséricorde, il faut rester dans un regard profond vis-à-vis de la misère de celui qu'on aide. Et il faut le relever de sa misère pour lui redonner courage et un nouvel élan. Tandis que quand vous adaptez, vous descendez avec eux, le pauvre, et vous n'arrivez plus à remonter le fossé quand vous êtes descendu. Parce que justement, ce n'est plus l'amour qui commande la miséricorde. Il y a ce souci d'adaptation. Je crois que c'est important parce que on identifie constamment aujourd'hui miséricorde et adaptation. Qu'il y ait un désir de s'adapter pour pouvoir faire la miséricorde, très bien. C'est-à-dire pour garder le contact. Je crois que c'est la seule chose qui légitime l'adaptation, c'est de garder le contact. Alors pour pouvoir justement faire la miséricorde, il faut garder le contact. Contact avec celui qui est proche de nous. S'il n'y a pas ce contact, on ne peut rien faire. L'adaptation permet ça. Mais il y a d'autres moyens de garder le contact, ce n'est pas le seul. Ça, c'est bien évident, ce n'est pas le seul du tout. Or, c'est garder le contact qui permet la miséricorde de pouvoir agir. S'il n'y avait pas ce contact, c'est impossible. Alors, il faut bien saisir que nous sommes ici en face de la première grande révélation de la miséricorde qui est tout de suite partagé. Dieu se sert d'un instrument. La vocation de Moïse est tout de suite une vocation de celui qui est envoyé. Il est l'envoyé de Dieu. C'est une mission que Dieu lui donne. Une mission qui effraie Moïse. Et on comprend. Et Dieu veut, malgré cette frayeur de Moïse, Dieu maintient sa volonté, mais Dieu, par miséricorde, va donner à Moïse un autre instrument. Alors, on pourrait dire, voyez, c'est pas dit dans le texte, mais je me demande si dans l'intention de Dieu, il n'y a pas cela. En donnant à Moïse un instrument, Aaron, Moïse va comprendre, va faire une expérience de miséricorde à l'égard d'Aaron, se servir d'Aaron pour communiquer ses intentions. Il sera pour Aaron comme un dieu. Et par là, Moïse va s'ouvrir à ce que Dieu réclame de lui, ayant l'expérience de cet instrument que Dieu lui confie, que Dieu lui donne, Moïse va pouvoir expérimenter ce qu'il doit être par rapport à Dieu. Il doit être comme Aaron et par rapport à lui, il doit être comme ça par rapport à Dieu. Je crois qu'il y a cela. C'est vrai que Moïse, à première vue, n'est pas un homme de miséricorde. Tous les gestes qu'on a vus, c'est de la justice. Il faut donc qu'il découvre ce que c'est que la miséricorde. On devient miséricordieux. Et ordinairement, des hommes qui ont très fort le sens de la justice ont beaucoup de peine d'être miséricordieux. Vous voyez, on devient humble et doux. Et les hommes qui sont très forts ont beaucoup de peine d'être humbles et doux. Mais ce n'est que progressivement qu'ils deviennent humbles et doux. Et il faut ordinairement, pour être vraiment humble et doux, être très fort. Alors, est-ce que là, nous ne voyons pas toute une pédagogie divine admirable par rapport à Moïse? Dieu ne veut pas abandonner son intention. Il la continue. Mais il est plein de miséricorde pour Moïse. Et la plus grande miséricorde qu'il fait pour Moïse, c'est de ne pas entrer dans son jeu. La plus grande, vous voyez comme il s'adapte admirablement à Dieu. Nous aurions dit, mais Dieu devrait écouter Moïse, quoi. Moïse, il bégait, il ne faut pas l'envoyer auprès du Pharaon. C'est impossible. Pas du tout. Dieu n'écoute pas Moïse qui avoue. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas vrai, est-ce que c'est une excuse ou pas une excuse, ça n'a pas d'importance. C'est très très net, ça n'a pas d'importance. Dieu n'écoute pas cela. Et Dieu veut éduquer Moïse à la miséricorde. Et pour éduquer Moïse à la miséricorde, il lui donne Aaron. Pour que Moïse comprenne qu'est-ce que c'est que d'être un instrument de Dieu. Être dans les mains de Dieu. Vous voyez, tout ça est impliqué ensemble. Hein. C'est la richesse de ce passage au point de vue théologique. C'est une très grande richesse. Et c'est grand, c'est beau d'avoir tout de suite ce jumelage de l'instrumentalité. Qu'on ne voyait pas du tout quand il s'agissait d'Isaac. Isaac aussi était instrument de Dieu. Jacob aussi était instrument de Dieu. Rebecca était aussi instrument de Dieu. Mais on ne voyait pas du tout ce jumelage. Tandis que quand il s'agit du législateur et de Moïse, on voit ce jumelage. Alors on peut se demander pourquoi. Pourquoi lorsqu'il s'agit de Moïse, on voit tout de suite ce jumelage. Alors quand il s'agissait au contraire d'Isaac, de Jacob, de Rebecca, pas du tout. Ils sont des instruments de Dieu dont Dieu se sert. Alors, est-ce que c'est le mystère de la paternité et le mystère du législateur? Toujours les deux grandes lumières qu'on doit avoir. La Genèse, c'est la paternité. L'Exode, c'est le législateur. Alors, est-ce que, de fait, chez le législateur, Dieu demande ce jumelage? Alors que lorsqu'il s'agit de la paternité, il ne le demande pas. C'est très important pour nous de comprendre ça. C'est très très important. Vous verrez ça dans votre vie, plus tard. Dans certains cas, Dieu vous demandera un jumelage d'instrumentalité. Et si vous refusez, ça peut être très grave. Et dans d'autres cas, Dieu ne demandera pas. Alors il faut discerner. Bon, c'est dit dans l'Écriture, hein. Il faut regarder l'Écriture, il ne faut pas l'inventer par nous-mêmes. On est incapable. Parce qu'il s'agit des secrets de Dieu. Et les secrets de Dieu nous sont donnés de cette manière-là. Comment se fait-il que lorsqu'il s'agit du législateur, le législateur, il doit faire une œuvre. Le Père, il ne fait pas une œuvre. Il aime. Être instrument dans l'ordre de l'amour, Dieu nous met seul avec lui. Réaliser une œuvre, Dieu aime de jubler les instruments. Pourquoi? Pour qu'on ne s'attribue pas à soi-même l'œuvre. C'est l'œuvre des deux, et non pas de seul. Quand vous commencez à faire une œuvre et que vous êtes seul, il y a une grande tentation de vous considérer « c'est mon œuvre ». Au moins, quand Dieu a jumelé l'instrumentalité, dès le point de départ, on ne peut plus s'attribuer. Parce qu'on dit que si l'autre n'était pas là, on n'aurait rien fait du tout. Donc, on est bien obligé de reconnaître que cette œuvre, ce n'est pas la nôtre. C'est l'œuvre des deux. Parce que je crois que lorsqu'on s'attache à une œuvre, lorsqu'on on fait qu'une œuvre ne devienne relative, c'est-à-dire qu'on en prend possession, on détruit l'œuvre de Dieu et on détruit en soi le sens de la contemplation. Il n'y a rien qui détruit plus le sens de la contemplation que de se glorifier d'une œuvre qui est l'œuvre de Dieu. Puisque c'est la glorification de ce qu'on fait qui est l'obstacle plus grand à la foi contemplative. L'obstacle plus grand de la foi contemplative, c'est justement de se glorifier de son œuvre. Et on le fait tellement facilement, ça. Il faut alors à ce moment-là, et Dieu fait ça par miséricorde, Dieu met ce jumelage pour que on ne puisse plus considérer que ce qu'on a fait, c'est notre œuvre. On doit au moins dire que c'est l'œuvre des deux. Donc ça devient un bien commun. Et si ça devient un bien commun, ce n'est pas notre bien. Il est plus ouvert. Tandis que quand il s'agit d'une œuvre de père, ce n'est plus, quand il s'agit d'être instrument dans l'ordre de la paternité, on ne fait plus d'œuvre. On est dans l'ordre de l'amour et des relations personnelles. Et parce qu'on est dans l'ordre de l'amour et des relations personnelles, Dieu, alors, à ce moment-là, isole son instrument. Il est seul. Je crois qu'on peut faire ce discernement quand on compare et qu'on met en parallèle Isaac et Moïse, Jacob et Moïse. Nous faisons la théologie de ce qui nous est donné ici. Nous essayons de comprendre l'économie divine. Comment Dieu intervient, comment Dieu réalise son œuvre, comment Dieu se suscite des amis, des instruments. Et on pourrait, voyez, aller assez loin là. Parce que le législateur, c'est d'être instrument du côté de l'intelligence. Tandis qu'au contraire, la paternité, c'est d'être instrument du côté de l'amour. Alors ça vous aiderait à mieux comprendre ce que je viens de vous dire. Du côté de l'intelligence, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret du côté de l'intelligence. Moïse, d'abord à l'étape de la loi, inscrite avec le doigt de Dieu sur la pierre. Donc c'est donné à tous. Et si c'est donné à tous, il peut donc y avoir ce jumelage. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit d'être instrument dans l'ordre de l'amour, c'est toujours des relations personnelles. C'est toujours donc une intimité. Et Dieu sauvegarde cette intimité. Et Dieu la veut, puisque c'est lui qui l'a créée. Et Dieu la garde. Tandis que lorsqu'il s'agit vraiment d'une œuvre de l'intelligence, que Dieu se sert de l'intelligence, c'est tout à fait différent. Dieu aime de multiplier ses instruments dans l'ordre de l'intelligence. Et Dieu, au contraire, se sert d'une manière plus particulière de ses instruments dans l'ordre de l'amour. Mais alors là, si ceci est vrai, cherchons, je le crois, mais si ceci est vrai, c'est très intéressant parce que nous retrouvons dans le gouvernement de Dieu, voyez, une manière toute différente de Dieu d'éduquer le cœur et d'éduquer l'intelligence. D'éduquer le cœur et d'instruire l'intelligence. L'Esprit Saint doit illuminer notre cœur et notre intelligence. Et il illumine notre cœur autrement que notre intelligence. Je vous ai déjà dit ça, cette parole de ce dominicain que j'ai bien connu, dont j'étais professeur de logique, et qui était un marxiste, fils de marxiste, petit-fils de marxiste, de génération. Il n'était pas breton. Mais il était du côté de la Belgique. C'était une alliance franco-belge. Alors, eh bien, Il m'a raconté, quand Dieu l'a converti, qu'il est venu à Paris, ayant une bourse pour faire sa licence de philosophie, de géographie humaine. Il m'a raconté cette chose très étonnante, qu'un beau soir, rentrant dans sa petite chambre, seul, il était comme terrassé. Première fois de sa vie où il était à genoux. Et en se relevant, je ne sais pas combien de temps ça a duré, il disait « je crois ». Et alors, il a eu cette expression très très belle. L'Esprit Saint a converti mon cœur, mais il me laisse à moi-même le soin de convertir mon intelligence. Et nous retrouvons ces choses différentes de la conduite de Dieu par rapport au cœur et par rapport à l'intelligence. Il me laisse le soin de convertir mon intelligence. J'étais petit-fils de marxiste, j'étais fils de marxiste, j'ai suivi les cours de Lefebvre, je suis entièrement marxiste. Mais Lefebvre avait dit une parole, c'est lui qui me disait ça, une parole qui m'avait beaucoup frappé. Il n'y a que deux métaphysiques possibles, celle de Thomas d'Aquin et celle de Marx. Tout le reste, c'est bourgeois. Et alors lui, devenant croyant, disant, il n'y a qu'une seule façon maintenant, je ne peux pas faire autre chose, c'est d'étudier Thomas d'Aquin. Étudier Thomas d'Aquin, il s'est renseigné. Il a dit, ah oui, il y a un ordre qui aime Thomas d'Aquin. Alors il a été frappé chez les Dominicains et est entré. Et il n'avait qu'un seul désir, c'était d'entrer à fond dans la pensée de Thomas d'Aquin. Se convertir quant à une métaphysique qui était une métaphysique vraie. Se purifier de ce que représentait le point de vue de l'idéalisme marxiste. Et vous voyez cette chose très curieuse, c'est quand il s'agit du cœur, l'Esprit Saint ne s'est servi de personne. Quand il s'agit de l'intelligence, l'Esprit Saint se sert d'instrument. Et quand il s'agit de l'intelligence, l'Esprit Saint peut se servir même de plusieurs instruments, en demandant une coopération. C'est, je crois, ça le propre. Parce que l'intelligence implique quelque chose d'objectif, d'universel. Tandis que l'amour est toujours subjectif, et l'amour est toujours quelque chose de très personnel. Alors l'Esprit Saint peut servir d'instrument, mais d'un seul instrument, pas les jumelages. Posons ça comme question. Voyons maintenant la réalisation de cette mission. Chapitre 5. Alors là, le pharaon qui a un cœur dur met très longtemps à convertir son cœur. Et Moïse le savait bien. Alors vous voyez, ça c'est la conversion du pharaon. Il y a toujours en nous un petit pharaon. Pas l'oublier. Il est quelquefois très caché, vous savez. Mais il y a toujours en nous un petit pharaon, le dominio. On aime de dominer, on aime de réaliser ses projets, on aime d'être le premier dans l'ordre de l'exécution, dans l'ordre de la réalisation. Alors c'est très difficile à convertir, parce qu'il a toujours la tête dure. Et plus il est pharaon, plus il a la tête dure. Plus il est enfoncé dans son dominium. Et convertir le cœur, ça va. Parce que les arguments sont les ordres de l'amour. Convertir l'intelligence, c'est difficile. C'est pas commode du tout. Ça met du temps. Tous les faux plis d'une intelligence marxisée, c'est très difficile à les effacer complètement. Pour arriver à redécouvrir l'intellectus au-delà de la dialectique. qui encombre, et convertir le dominium. Parce que c'est bien ça qu'on voit. N'oubliez jamais, hein, ayez toujours en présence ce qui nous est donné dès le début de la Genèse, les trois dimensions de l'image de Dieu en nous. Le dominium, l'intelligence. Dieu reprend l'imago, l'image de Dieu en nous. Il la reprend à travers son peuple. Dieu commence dans sa pédagogie, il commence par convertir le cœur des pères. Parce que c'est le cœur des pères qui est le plus facile à convertir. Même peut-être plus facile que le cœur de la mère, c'est curieux. C'est un fait. Sarah, je ne sais pas si son cœur a été tellement converti à la fin de sa vie, où elle est enterrée. Très bien enterrée, ça s'est bien terminé, mais quand même, il y a eu des petites crises de jalousie assez puissantes chez Sarah. Le cœur des pères, la grandeur du cœur du père, la magnanimité. Dieu convertit le cœur des pères. Commence par là. Puis Dieu va convertir l'intelligence pratique du législateur. Et Moïse va être un instrument de Dieu par rapport au dominium du pharaon. Et là, échec total. Selon l'économie de Dieu. Vous voyez, si le pharaon s'était converti, toute l'Égypte. Vous voyez ça, le petit peuple d'Israël, assumant toutes les rites, aurait peut-être été trop dangereux à assimiler. Devrait-il que le pharaon demeure? Et ensuite, nous verrons les rois. Le pharaon, c'est un roi extrinsèque en dehors, c'est pas étonnant. Mais Dieu va choisir dans son peuple des rois. Je sais très bien, c'est pas spontané que Dieu fait ça. Dieu fait ça parce qu'il a un peu la main forcée. Et la conversion des rois, elle n'aboutit pas. Tandis que les cœurs, l'amour, donc la volonté, l'intelligence, il y a une petite fêlure. Meriba, hein, nous le disons tous les jours. Meriba, chaque fois que vous dites Meriba, pensez que l'intelligence c'est dur à convertir. C'est pas commode du tout de ne rechercher que la vérité, et uniquement la vérité. Il y a toujours un petit peu d'orgueil. Ça c'est Meriba. Petite fêlure, il ne va pas entrer en terre promise. Tandis qu'au contraire, tous les pères, ils sont ensevelis ensemble, et ça demeure. C'est un signe. Quand on peut aller à Hébron, c'est une des choses les plus émouvantes qui soit. De prier auprès d'Abraham, avec le peuple d'Israël, avec les Arabes. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Ça, ils sont réunis, ils sont le repos de Dieu. Ils sont le repos de Dieu, ses pères. Et grâce au père, leur femme. Alors ils sont le repos de Dieu. Tandis que l'intelligence, non. Cette intelligence, ce n'est pas le repos de Dieu, c'est le cœur qui est le repos de Dieu. Dieu se repose dans notre cœur, dans un cœur qui est totalement donné. Tandis que l'intelligence, même si elle est totalement donnée, qu'elle recherche uniquement la vérité, ça ne peut pas être le repos de Dieu. Curieux. Et le dominium, alors là, c'est autre chose. Mais je crois qu'il faut avoir cela, parce que vous voyez... Ce petit schéma qui est donné dès le début. On interprète l'écriture par l'écriture. Hein, et on doit l'interpréter à l'intérieur même de l'écriture. Or, de fait, ça nous est donné au point de départ. Vous ne comprendrez rien à l'écriture si vous ne voyez pas l'image de Dieu qui est tout le temps là. Et la conduite de Dieu, c'est de faire que l'image de Dieu devienne enfant de Dieu. C'est l'orientation profonde de l'image qui tend vers le Fils. C'est pour ça que ce sera parfait lorsque nous serons en face du Christ, qui sera le Fils en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Alors, essayons de voir la résistance du pharaon. Un très bon examen de conscience. Les résistances successives. Ensuite, Moïse et Aaron vinrent dire à Pharaon : ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël, renvoie mon peuple pour qu'il me fête au désert. Pour qu'il m'adore au désert, pour qu'il me fête au désert. Voilà la finalité. Hein. Libérer le peuple d'Israël pour qu'il redevienne un peuple religieux et directement relié à Dieu. C'est très important, théologie de la libération. Hein. Voilà le but. Pour qu'il me fête au désert. Pharaon dit, qui est Yahvé pour que j'écoute sa voix en renvoyant Israël? Je ne connais pas ce Yahvé. Je ne renverrai pas non plus Israël. Vous voyez la résistance orgueilleuse. Je ne connais pas. Parce que je ne connais pas. Eh bien, non. C'est très net. C'est bien l'orgueil, ça. Ils dirent, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. C'est difficile, hein, une fois qu'un homme comme le pharaon a dit non, d'être des témoins vivants de Dieu. Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Puissions-nous aller à 3 jours de marche dans le désert pour sacrifier à Yahvé, notre Dieu, de peur qu'il ne nous frappe par la peste ou par le glaive. Le roi d'Égypte leur dit, pourquoi Moïse et Aaron, débauchez-vous le peuple de ces travaux? Voilà la grande raison. Quand on a des ouvriers qui ne coûtent pas cher, on veut les garder. L'efficacité. Pourquoi Moïse et Aaron, débauchez-vous le peuple de ces travaux? Allez vos corvées. Pharaon dit, voici qu'ils sont maintenant plus nombreux que les gens du pays, et vous leur ferez interrompre leurs corvées. Vous voyez, il y a comme une espèce de petite réflexion. On voit très bien comment on peut dire qu'il y a 2 couches. C'est facile, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de voir la correction de ce cœur endurci par l'efficacité. C'est l'efficacité qui commande tout. On ne regarde plus les hommes. Hein. Il y a une philosophie du gouvernement, hein. Une philosophie communautaire, une philosophie politique. C'est intéressant de voir ça. Première chose qu'ils voient, vous débauchez les ouvriers. Et donc, vous êtes des gens malfaisants. Ce jour-là, le pharaon donna cet ordre aux surveillants du peuple et à ses scribes. Vous ne donnerez plus de paille au peuple pour faire des briques, comme auparavant. Qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Toujours un peu la même chose, vous voyez ? Ça, c'est la demande de Dieu refusée enferme le pharaon sur lui-même et le rend encore plus méchant. Il veut montrer davantage son dominium. Et donc, il enlève une petite douceur qu'il avait fait avant. On avait donné de la paille, puis il avait travaillé tout long pour qu'il puisse faire des briques. Et vous exigerez d'eux la quantité de briques qu'il faisait auparavant. Vous n'en rabattrez rien. Ce sont des fainéants. Voilà pourquoi ils crient. Laisse-nous aller sacrifier à notre Dieu. Que ce travail pèse lourdement sur ces gens-là et qu'ils s'y livrent et qu'ils n'aient point égard à des paroles mensongères. Le surveillant du peuple et ses scribes sortirent et dirent au peuple « Ainsi parle Pharaon, je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même, vous procurez de la paille de vous. Allez vous-même, vous procurez de la paille où vous en trouverez, car on ne rabattra rien de votre travail. » Le peuple se dispersa dans tout le pays d'Égypte pour ramasser du chaume en guise de paille. Les surveillants les pressaient en disant « Achevez votre ouvrage, chaque jour ce qu'il faut pour le jour comme lorsqu'il y avait de la paille. » Les scribes des fils d'Israël furent battus. Ceux qui leur avaient imposé les surveillants de Pharaon. « Pourquoi, disait-on, n'avez-vous pas acheté ni hier, ni aujourd'hui, votre compte de briques, comme auparavant. » Les scribes, des fils d'Israël, vinrent crier vers Pharaon en disant « Pourquoi agis-tu ainsi envers tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs. Et on nous dit « Faites des briques. » Et voilà que ses serviteurs sont battus, et c'est un péché contre ton peuple. Il dit, vous êtes des fainéants, voilà pourquoi vous dites, laissez-nous aller sacrifier à Yahvé. Et maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille, mais vous donnerez votre quantité de briques. Il est bien déterminé. Là, c'est ce qu'on montre toujours l'écriture. C'est extraordinaire. Déterminé à Douno, hein, complètement. Il répète tout le temps, peu importe, on n'écoute pas. Je crois qu'il faut nous faire comprendre, vous voyez, ce que c'est que le Pharaon. C'est symbolique. C'est réel et c'est symbolique. Ça exprime le potentat. Ça exprime le tyran. Ça exprime ce qui dans l'homme peut arriver justement à la tyrannie. Les scribes des fils d'Israël se virent en mauvaise posture quand on leur dit « Vous ne rabattrez rien de vos briques, chaque jour ce qu'il faut pour le jour. » Comme ils sortaient de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron, qui se tenaient debout à les attendre. Ils leur dirent « Que Yahvé nous regarde, et qu'il juge. Vous nous avez rendu odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis dans leurs mains un glaive pour nous tuer. » Ça, c'est toujours la situation d'intermédiaire, hein, du médiateur. Le médiateur, il se fait battre des deux côtés. C'est très net. Hein. Et dans toute l'histoire de Moïse, on va voir ça. Moïse est là pour sauver son peuple. Et comme ce n'est pas efficace, et que le Pharaon se sert même de ce que Moïse a dit pour entrer dans une colère plus grande, le peuple d'Israël ne comprend pas l'attitude de Moïse. Moïse retourna vers Yahvé et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Depuis que je me suis rendu vers Pharaon pour parler en leur nom, il a fait du mal à ce peuple. Et tu n'as rien délivré, mon peuple, ton peuple. Alors Moïse, voyez, ça c'est dernier point comme médiateur, il revient auprès de Dieu pour se plaindre de cette conduite incompréhensible de Dieu. Et c'est vrai, c'est Dieu envoie Moïse chez le Pharaon, et donc il le fait par obéissance. Tout ce que vous faites par obéissance, disent les bons spirituels, réussit avec des fruits merveilleux. Tout ce que vous faites par obéissance, Moïse fait ça par obéissance, et puis ça ne réussit pas. Vous voyez bien, il aurait mieux fait de ne pas obéir. Il faut saisir ça. Parce que c'est une éducation, c'est une pédagogie de Dieu. Et on voit très bien comment Moïse, lui, dit à Dieu, ça ne va pas. On va essayer de comprendre petit à petit, je suis le texte, parce que c'est très important. Dieu qui éduque Moïse à l'obéissance. Et Moïse, novice de Dieu, dit à Dieu, je ne comprends pas, j'étais obéissant jusque maintenant, j'ai toujours fait, puis voilà, vous ne m'écoutez pas. Vous savez, les pieux novices, c'est comme ça. Ils obéissent parfaitement, ils font exactement ce qui est demandé, et puis, ça va encore plus mal. Alors on dit, quand même, quoi? Il y a une mauvaise humeur à ce moment-là. Une mauvaise humeur qui gagne. Il y avait ta Moïse. Maintenant, tu vas voir ce que je ferai à Pharaon. Contraint par une main forte. Donc la première demande était gratuite. Est-ce que le pharaon est capable de gratuité? Non. Incapable. Il est incapable de comprendre un langage de gratuité. Dieu demandait la libération de son peuple gratuitement. Et Pharaon ne comprend pas. Nous avons une peine énorme à comprendre le langage de la gratuité. De Dieu. Il faut bien se dire ça. Parce qu'il y a en nous un petit reste de pharaon, et quelquefois un gros, qui a bien poussé. Alors nous avons une peine énorme d'entendre le langage du pharaon. Et, je veux dire, le langage de Dieu dans sa gratuité. Alors, on comprend. Dieu va le corriger avec une main forte. Il y avait dit à Moïse, maintenant, tu vas voir ce que je ferai à Pharaon. Contraint par une main forte, il les renverra. Contraint par une main forte, il les chassera de son pays. Mais c'est l'efficacité de la force. Hein? La théologie de la main forte. Vous voyez bien. Yahvé dit à Moïse, Dieu parla à Moïse et lui dit, je suis Yahvé, je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob, comme El Shaddai. Mais sous mon nom de Yahvé, je ne me suis pas fait connaître d'eux. J'ai de plus établi mon alliance avec eux. En leur donnant le pays de Canaan, le pays de leur pérégrination où ils ont pérégriné. J'ai moi-même entendu les soupirs des fils d'Israël que les Égyptiens asservissent. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux fils d'Israël, je suis Yahvé. Je vous ferai sortir de dessous les corvées d'Égypte. Je vous délivrerai de sa servitude et je vous racheterai par un bras étendu et par de grands châtiments. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu, qui vous fait sortir de dessous les corvées d'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré. La main levée de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Et je vous le donnerai en possession. Je suis Yahvé. Moïse parla ainsi aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse, impatients qu'ils étaient sous la dure servitude. Et on dirait aujourd'hui que Moïse a perdu toute crédibilité. Absolument, toute crédibilité, puisque quand il a parlé, qu'il a dit, ça a fait l'effet inverse. Alors il faut à tout prix que ça change. Yahvé parla à Moïse en ces termes, « Va parler à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il renvoie de son pays les fils d'Israël. » Moïse parla devant Yahvé en disant, « Voici que les fils d'Israël ne m'ont pas écouté. Comment alors Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui suis incirconcis des lèvres ?» Yahvé parla à Moïse et à Aaron. Il leur donna des ordres pour les fils d'Israël et pour Pharaon, roi d'Égypte, en vue de faire sortir les fils d'Israël du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur maison paternelle. Alors, je vous laisse lire toute la succession. Tels sont les chefs. Marquez, il faut lire, hein, c'est sûr. Tels sont les chefs de maison paternelle des Lévites, selon leur clan. C'est à cet Aaron et à ce Moïse que Yahvé dit, « Faites sortir des fils d'Israël du pays d'Égypte, d'après leurs armées. » Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les fils d'Israël. Ce sont ces mêmes Moïse et Aaron. Donc vous voyez, encore une fois, c'est ce que je comprends très bien devant, quand on essaie de saisir la ligne historique, on voit très bien qu'il y a des récits divers, des sources diverses. Je crois, c'est très net. On ne peut pas le nier, ça. Vous allez voir encore. Exprès, c'est pour ça que je le lis exprès à la suite, parce que c'est très important. Et quand on le lit tout haut, on comprend mieux, on voit mieux ça. On voit mieux que c'est vrai. On pourrait simplifier, corriger le Saint-Esprit. Alors simplifiez un peu, faites un récit linéaire, tout simplement, on voit bien la suite. Alors pourquoi ça? Je crois que dire tout simplement le hasard, c'est pas suffisant. Il n'y a pas de hasard quand il s'agit de la parole de Dieu. Alors pourquoi? Il faut se poser sérieusement la question, parce que vous entendrez, en tant qu'exégète, je comprends très bien, en tant qu'exégète, mais l'exégète n'est pas la norme de votre foi. Hein? Les conclusions des exégètes ne sont pas la norme de votre foi, n'oubliez jamais ça. C'est le pape Jean-Paul II qui l'a dit aux exégètes. Donc il ne faut jamais oublier ça. C'est très intéressant. Comme dit le Père Feuillet, les exégètes sont les serviteurs des théologiens. Le jour où les théologiens sont déterminés par leurs serviteurs, ça devient très gênant. Ils ne sont plus des théologiens. Ils ne sont plus au niveau de la sagesse. Ils sont au niveau, tout simplement, de la disposition. Et ils oublient la finalité. Donc, il faut le savoir, tout ça. Et c'est intéressant de voir, justement, ces différents aspects. On l'a vu dans Saint Jean, c'est sûr, mais dans Saint Jean, c'est plus facile. Hein. Ici, c'est beaucoup plus difficile. On est devant des traditions anciennes qui ont été récoltées. Alors, on met des étiquettes. C'est évident qu'on met des étiquettes, mais mettre des étiquettes, ça n'explique rien. Or, le jour où il y avait par là Moïse au peuple d'Égypte, Yahvé parla à Moïse en disant « Je suis Yahvé, dis au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. » Moïse dit devant Yahvé
Mais je suis incirconcis des lèvres. Comment donc Pharaon m'écoutera-t-il? Pauvre Moïse, c'est pas comme un... Sa foi ne brûle pas les obstacles. Il est encombré de tous ces obstacles. C'est net. Yahvé dit à Moïse, vous, j'ai fait de toi un dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Tu diras, toi, tout ce que je t'ai commandé, tout ce que je te commanderai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon, pour qu'il renvoie de son pays les fils d'Israël. Mais moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges au pays d'Égypte. Donc nous retrouvons là une analogie très nette avec le passage de Saint Jean. Hein? Et c'est très très beau ça. Pourquoi le Pharaon ne comprend pas? J'endurcirai son cœur. Comme le peuple d'Israël, pourquoi n'a-t-il pas accepté le message du Christ? Alors vous voyez le parallélisme avec le message de Moïse, le message de Jésus. Et des deux côtés, l'endurcissement. Pharaon ne vous écoutera pas, et je poserai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les fils d'Israël, par de grands châtiments. Et les Égyptiens sauront que je suis Yahvé. Quand j'étendrai ma main contre l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les fils d'Israël. Vous voyez comme c'est solennel, ça. Ça ne me gêne pas, moi. C'est une chose tellement importante. C'est une chose tellement importante. Ce n'est pas gênant du tout qu'il y ait, je ne dis pas des répétitions, mais qu'il y ait comme des moments où tout n'est pas dit, on prépare. Les grands moments sont préparés. Moïse et Aaron firent selon ce que leur avait dit, leur avait commandé Yahvé. Ainsi firent-ils. Moïse était âgé de 80 ans. Ça, on vieillit dans des trucs comme ça. Des situations comme celle-là, on comprend très très bien. Moïse était âgé de 80 ans. C'est curieux qu'il n'ait pas donné ça comme raisonnement. Comme chose, il aurait pu dire, je suis bien trop vieux. Ça vient après. Et Aaron, de 83 ans, quand ils parlèrent à Pharaon. Yahvé dit à Moïse, à Aaron, lorsque Pharaon vous parlera en disant, opérez un prodige en votre faveur. Tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, qu'il devienne un gros serpent. Donc, nous retrouvons, vous voyez, le changement du bois en serpent. C'est une répétition que le Saint-Esprit aime bien. Pour arriver à me faire comprendre quelque chose, avoir de la peine, avoir la tête dure comme Pharaon, voilà, faut le répéter plusieurs fois. Prends ton bâton et jette-le devant Pharaon, qu'il devienne un gros serpent. Moïse et Aaron se rendirent chez Pharaon et firent ainsi qu'avait commandé Yahvé. Aaron jeta son bâton devant Pharaon, devant ses serviteurs. Il devint un gros serpent. Et Pharaon aussi convoqua les sages et les sorciers. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant pour leurs pratiques occultes. Ils jetèrent chacun leur bâton. Ça, c'est la répétition. Même ça, l'esprit n'est pas là. Mais c'est de voir si ce charisme est quelque chose de très particulier
ou bien s'il y a quelque chose qui est différent. Ils jetèrent chacun leurs bâtons. Les bâtons devinrent de gros serpents. Et le bâton d'Aaron engloutit leurs bâtons. Le cœur de Pharaon s'obstina et n'écouta pas Moïse Aaron, selon ce qu'avait dit Yahvé. Heureusement que Yahvé avait prévenu. C'est plus facile à accepter, hein. Yahvé dit à Moïse, le cœur de Pharaon est appesanti. Il a refusé de renvoyer le peuple. Va vers Pharaon le matin. Justement, il sortira vers les eaux. Tu le tiendras debout pour l'attendre sur la rive du Nil. Et tu prendras dans ta main le bâton qui s'est changé en serpent. Tu lui diras, Yahvé, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour dire, renvoie mon peuple pour qu'il me serve au désert. Et voici que, jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Ainsi parle Yahvé. À ceci, tu sauras que je suis Yahvé. Voici que moi, du bâton qui est dans mes mains, je vais frapper sur les eaux qui sont dans le Nil. Elles se changeront en sang. Et les poissons qui sont dans le Nil mourront. Le Nil deviendra infect. Et les Égyptiens devront renoncer à boire l'eau du Nil. Yahvé dit à Moïse, dis à Aaron, prends ton bâton et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs canaux, sur leurs étangs, sur tous les amas d'eau, et qu'elle soit du sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, même dans les arbres et dans les pierres. Continuera ce fameux passage des 10 plaies d'Égypte que nous avons entendu depuis longtemps. Mais il faut essayer de comprendre comment ces 10 plaies d'Égypte, c'est cette correction de Dieu par rapport à l'orgueil du Pharaon.